Bonjour à tous. Joël, tu avais lu le passage que j'allais lire aujourd'hui ou pour la liturgie ?
Ah, l'esprit fait bien les choses.
Alors je vous invite à revenir dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens. La première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens. Au chapitre 1, verset 18. Je vous rappelle juste que Paul, c'était une église toute jeune et assez traversée par des mouvements de division. Et au lieu de tous se revendiquer de Jésus-Christ, il disait « Non, mais moi je suis de l'école de Paul, moi je suis de l'école de Pierre, moi je suis de l'école d'Apollos. » Et l'apôtre était très triste de voir les chrétiens se diviser et commencer des guerres de clochers quelque part. Et là-dedans, il dit, qu'à terminer, on avait lu au verset 17, « Je suis venu annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir » la mort du Christ sur la croix. Et aujourd'hui, nous lisons. En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai le savoir des intelligents. Alors, où est le sage ? Où est le spécialiste des Écritures ? Où est le brillant orateur du temps présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée. Elle est folle. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il montrait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle qu'est la croix. Alors les Juifs demandent comme preuve des miracles, des signes extraordinaires, et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous proclamons le Christ crucifié. Un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas, mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est une puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Jusqu'ici, les Écritures. L'apôtre Paul essaye de désamorcer dans l'église qu'il a fondée une espèce de guerre intestine, de lutte pour tenir le haut du panier, comme on dit en français, pour avoir la meilleure place, pour se mettre en avant, avoir la meilleure posture. Et souvent, c'est vrai que dans les groupes humains que nous pouvons fréquenter, qu'ils soient associatifs, politiques, le monde de l'entreprise, même dans la famille, il y a un jeu de pouvoir qui s'établit autour d'un système de valeurs. Peut-être il y aura telle fille ou tel fils qui sera un peu plus considéré dans la fratrie parce qu'il a un diplôme un peu plus élevé que les autres. Ou alors, telle personne dans l'entreprise qui, pour diverses raisons, on écoutera plus. Peut-être parce qu'elle a un meilleur poste, ou peut-être parce qu'elle est liée par le mariage au patron, ou j'en sais rien. Toujours est-il qu'on établit des systèmes de valeurs, et avec des systèmes de valeurs, des hiérarchies, et avec des hiérarchies, des jeux de pouvoir. Là, c'est à notre petite échelle à nous. Et puis quand on prend encore plus de recul à l'échelle du monde, à l'échelle de nos nations, on va avoir effectivement des voix, des discours, des figures, peut-être idéologiques, peut-être politiques, peut-être scientifiques, peut-être philosophiques, qui vont avoir pignon sur rue, c'est-à-dire qui vont avoir notre attention de manière plus globale. À l'époque de l'apôtre Paul, chez les Juifs, c'était les pharisiens et peut-être les sadducéens qui avaient cette voix prédominante, et on sait quels accueils ils ont fait à Jésus-Christ. À l'époque de Paul aussi, chez les Grecs, la philosophie, la sagesse jouaient un grand rôle dans la société. Mais Paul dit, que ce soit les spécialistes des Écritures, les maîtres qui connaissaient par cœur toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ou que ce soit ces grands rhéteurs et orateurs grecs qui pouvaient citer des auteurs des siècles passés, aucun d'entre eux n'a trouvé le chemin vers Dieu vraiment, à travers ses sagesses, à travers cette façon de lire avec science les Écritures. Et Paul cite le prophète Ésaïe en disant que Dieu a choisi de détruire la sagesse des sages et de rejeter le savoir des intelligents. Alors on va aller lire le passage dans Ésaïe, c'est Ésaïe au chapitre 29. Pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je trouvais intéressant que Joël ait choisi de prêcher sur la sagesse. Je trouve que ça faisait un bel écho avec le thème de ma prédication, comme quoi il y a peut-être l'Esprit Saint qui conduit les choses ici. Ésaïe au chapitre 29. Je vais juste lire le passage qui nous concerne. Au verset 13 et suivant. Le Seigneur a dit à ce peuple, il n'est proche de moi que en parole, et c'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. La reconnaissance qu'il prétend avoir de mon autorité n'est que tradition humaine, leçon apprise. Je vais donc continuer à étonner ce peuple par des prodiges, des merveilles. Et la sagesse des sages sera mise en échec, et la compétence des experts sera prise en défaut. C'est là que Paul cite. Quel malheur de voir ces gens qui agissent en secret et qui cachent leurs projets au Seigneur, qui trafiquent dans l'ombre, en disant « Qui peut nous voir » pense-t-il. « Et qui sait ce que nous faisons ?»« Ah, mais quelle absurdité que la vôtre !» Mettre sur le même plan l'argile et le potier? L'objet dira-t-il à l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait. Le vase dira-t-il du potier, il n'y connaît rien. Et ne savez-vous pas, d'ici très peu de temps, la forêt du Liban deviendra un verger, et le verger une forêt. Ces jours-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre. Et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les aveugles se mettront à voir. Le Seigneur sera pour les humbles une source de joie. grandissante. Les plus pauvres des humains éclateront de bonheur grâce au Dieu d'Israël qui est saint. Ce sera la fin des tyrans, les insolents seront éliminés et on sera débarrassé de ceux qui cherchent à nuire aux autres, qui les accusent de crimes, qui tendent des pièges aux juges et font condamner sans raison ceux qui sont dans le bon droit. Je m'arrête là. Quand Dieu va venir, là je reprends la prophétie de Ésaïe dans son contexte, hein, donc on n'est pas à l'époque de Paul, on est des siècles avant. Et Dieu menace de punir le royaume de Juda et de le déporter à Babylone parce que la corruption et l'idolâtrie ont grandi. On est en train de faire à l'étude biblique hein, le livre du prophète Amos. Et on voit que quand le peuple se détourne de Dieu, quand le peuple tombe, glisse vers l'idolâtrie, qu'est-ce qui grandit dans le peuple ? La corruption. Plus le peuple se tourne vers des fausses idoles, plus l'injustice, la fraude, les tyrans s'élèvent dans le peuple. Et là, dans le discours de Ésaïe, on retrouve la même idée. La même idée. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Alors oui, en surface, les traditions humaines, tout ça c'est nickel, c'est en place. Mais là, il n'y a rien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Alors, Dieu arrive, il va faire quelque chose. On ne sait pas trop quoi là, dans le texte c'est encore un peu mystérieux. Il va les étonner, il va faire quelque chose. Qu'aucun sage, qu'aucun prophète, soi-disant prophète, qu'aucun visionnaire, qu'aucun érudit n'aurait pu prévoir. Et toute leur capacité de prédiction, de dire que tout ça, balayé. Et alors, tout va être renversé. Un verger bien entretenu va devenir une forêt sauvage, alors que les forêts sauvages vont devenir des vergers. Les aveugles vont se mettre à voir, les sourds vont se mettre à entendre, les humbles, les plus pauvres, vont trouver toute leur joie en Dieu, et les tyrans, les oppresseurs, ceux qui accusent de crimes, ceux qui tendent des pièges, ceux qui manipulent la justice, eux, le grand renversement. Mais est-ce que c'est de ça dont Paul parle ? Est-ce qu'il est en train de parler lui aussi d'un grand renversement que Christ opère ? Ben, retournez en 1 Corinthiens avec moi. Et on va lire juste la suite du passage. Versets 26 à 30. Je lis. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de nobles origines. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est en bas, méprisable, ou ce qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime comme important. Ainsi, aucun être humain ne pourra faire le fier devant Dieu, mais Dieu vous a uni à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que Dieu a fait. Génial. Donc on est bien dans ce thème-là. On est bien dans ce grand thème de l'Évangile, les premiers seront les merci, et les derniers seront les premiers. Ceux qui sont tout en haut et qui se pavanent dans une forme de puissance, de pouvoir et d'arrogance seront abaissés, tandis que les humbles seront élevés. N'est-ce pas? Et Paul dit que la façon dont il est venu rencontrer ces Corinthiens pour leur parler de Jésus, justement, les grands discours éloquents, les grandes argumentations théologiques très structurées avec l'art oratoire qu'il aurait appris des Grecs, parce qu'il a été quand même à des grandes écoles, Paul, c'est pas avec ça qu'il est venu apporter Jésus-Christ. Exprès, justement. Est-ce que je peux vraiment être un messager ? Comment dire ça ? Si je viens, mettons que je sois quelqu'un qui vienne promouvoir l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, et que je vienne passer 3 jours à Vauvert, alors que j'habite à Sydney, et que je sois venu en jet privé pour vous dire qu'il faut réduire votre empreinte carbone. Qu'est-ce que vous vous diriez? Hein? C'est pas crédible. Si je viens vous parler de Dieu fait homme, qui naît d'une simple femme, Marie, qui est fils de charpentier, qui va vivre dans la simplicité et une pauvreté, qui va vivre dans la dépendance de son père et des autres, et qui va mourir dans une apparente faiblesse. Et que je vous le dis avec autoritarisme, et que je vous pousse à lui obéir à ce Jésus avec une certaine forme de violence, d'imposition. Si je vous parle de sa douleur, de sa douceur, en vous menaçant, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous devriez me dire? T'es pas crédible. Si je vous parle du Fils de Dieu qui s'est fait pauvre en me pavanant dans un costard à 3000 euros, qu'est-ce que vous devriez me dire? On joue parfois, vous connaissez la parabole du pharisien et du péager. C'est un pharisien et un péager qui viennent prier au temple, et le péager, il prie, le pharisien, il dit: « Ah Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme ce péager. » Lui, c'est un péager, c'est un pécheur, mais moi je donne la dîme, je prie tous les jours, vous voyez. Mais on peut faire la parabole du pharisien et du péager inversée. « Ah Seigneur, je te remercie, moi je ne suis pas un de ces puissants du monde. Je suis humble. Je ne suis pas orgueilleux, je me vautre pas dans la richesse. » Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on peut faire la même prière, mais juste en la détournant et tirer orgueil au final. Et c'est toujours pas ce que Paul veut dire. D'abord, je ne sais pas ce que je ferais si je me retrouvais moi aussi en situation de puissance, de pouvoir et d'argent. Méfiance. On peut tous se fantasmer quand il y avait la Seconde Guerre mondiale. Ah, si j'aurais été résistant. Et si on avait été dans la guerre des camisards, qu'on aurait pris le maquis et que avec Marie Durand, on aurait tenu ferme dans la tour de Constance, ou qu'avec cette sœur qu'on a vu qui a connu la prison, qu'on n'aurait pas renié la foi. Et que si un jour vous vous retrouvez à la tête d'une fortune de 2 ou 3 millions d'euros, bien sûr, je ferai le bien. Après m'être acheté une villa. et une piscine, mais c'est pour recevoir les réunions de prière. Méfiance. Oui, nous ne sommes pas comme ces grands et ces puissants du monde. Il y a des gens aujourd'hui qui sont vraiment à des postes sur la planète avec une capacité de faire le bien. Et je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'ils ne font pas tout le bien qu'ils pourraient faire. Mais ne nous précipitons pas à dire que nous, à leur place, nous ferions mieux. Restons humbles, réellement. Alors Paul ne veut pas rendre sans force la croix du Christ. Et nous, Église, nous devrions nous aussi ne pas vouloir rendre sans force la croix du Christ. Comment faire ? Nous ne devrions pas jalouser, nous mettre en compétition avec les sages, les spécialistes et les docteurs de ce monde. Il faut renoncer, il ne faut pas chercher à ce que nos églises, si vous voulez, elles ressemblent aux lieux les plus attractifs et les plus tendances du monde. Ce n'est pas notre but que de rentrer en compétition sur leur terrain, que de vouloir les rejoindre pour rivaliser avec eux. Je ne crois vraiment pas que l'Église doit chercher à avoir une puissance politique, que l'Église doit chercher à avoir une puissance financière, que l'Église doit chercher à avoir une puissance médiatique. Ce sont les outils de puissance de ce siècle, pas que de ce siècle d'ailleurs. Et c'est pas par ces moyens de puissance que le Christ est venu. C'est pas par ces moyens de puissance que le christianisme depuis plus de 2000 ans demeure. Pas forcément hyper grandiloquent, mais il demeure. C'est pas ça le programme politique de Jésus. Je veux vous lire le programme politique de Jésus. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront en héritage la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Où est la puissance? Où est la gloire? Où est la stabilité en haut de la colline, là, en train de dominer les autres? Dans ces mots, elle n'y est pas. Elle ne fait pas partie du programme. Elle n'est même pas un but à rechercher. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 28, je crois, il y a cette église, vous savez, dans l'Apocalypse, au début, il y a sept lettres qui sont envoyées à sept églises différentes de l'Asie mineure. Et la pire des églises, à la fin, Christ lui fait cette parole. Au vainqueur, je donnerai la possibilité de s'asseoir sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alors on peut se dire, ah voilà la gloire, voilà le pouvoir. S'asseoir sur le trône de Jésus, ouais, moi je veux bien. Comme moi j'ai vaincu. Mais comment il a vaincu Jésus ? Comment il a vaincu ? Ah oui, c'est vrai. Vous voulez le trône de Jésus ?
Il vous est offert. J'ai presque envie de vous dire, il est préparé pour vous. Mais par quel chemin ? Par quel chemin pour l'Église ? Mais cela pourquoi ? Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Non pas par nos forces à nous, mais par la puissance de Dieu. Paul n'a pas envie d'être nul. Paul n'a pas envie d'être un mauvais ouvrier. Paul n'a pas envie de se vautrer dans la médiocrité. Non, non. Paul veut que ce soit la puissance de Christ à travers lui qui soit manifestée. Donc il ne passe pas par les mêmes chemins que nous les humains. Vous voyez ? C'est un peu comme, en 2027, on va avoir les élections. On va avoir des gros candidats et des petits candidats. Et on va se dire, non mais on vote pas pour les petits candidats. Pourquoi ? Même s'ils nous plaisent plus que les gros candidats, parce qu'on va dire, ça marche pas. Ils vont faire 1,5%, sert à rien. N'est-ce pas ? Mais quelque part, on lit les béatitudes, on lit le sermon sur la montagne, heureux les humbles de cœur, heureux les doux. Et on va dire quoi ? Non, c'est beau. Mais ça marche pas. Hein ? Tu vas dans le monde de l'entreprise, tu vis ça ? C'est bisounours, quoi. Non, non, c'est pas bisounours. C'est une folie. C'est une folie. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse apparente de Dieu est plus puissante que la puissance des hommes. Et là, Joël l'a dit, que parfois notre sagesse et nos raisonnements ne nous emmènent pas là où Dieu, par son esprit, nous conduit. Il y a un chemin de foi à avoir. Je ne veux pas démonter les arguments de l'autre, je veux démontrer Christ par ma vie. Choisissons la folie de Dieu, choisissons la faiblesse apparente de Dieu plutôt que la puissance des hommes et la sagesse des hommes. Laissons-nous gagner, laissons-nous séduire. Apprenons à changer notre goût de l'humilité, de la douceur, de la bonté, de la générosité, de la miséricorde, de la patience, de la persévérance, plutôt que la puissance, l'arrogance, la force, la domination, l'orgueil. Devenons complètement fiers de ce Messie, de ce Sauveur qui vient nous sauver en offrant sa vie, plutôt qu'en imposant son ordre. Mais que nous aussi, dans notre vie, nous nous mettions à rejeter ceux qui s'imposent. Nous cessions d'admirer ceux qui dominent. Nous cessions d'envier ceux qui s'imposent pour préférer le serment sur la montagne, les béatitudes, heureux les doux, heureux les pauvres en esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas simplement critiquer les puissants parce qu'ils sont puissants et qu'ils s'imposent à nous. C'est nous refuser à nous-mêmes aussi les moyens qu'ils utilisent, les outils auxquels ils ont recours pour privilégier ce que le Christ nous appelle à suivre. D'être vraiment des disciples intégrales.
On arrivera où est-ce qu'on arrivera? On aura la place que le Seigneur nous donnera. On demeurera parce que Dieu nous fait demeurer. Et ce sera par sa puissance et non par nos forces. Ce sera par sa sagesse et non par la nôtre, afin que la croix ne soit pas rendue creuse. Comme quelqu'un qui traverserait la moitié du monde en jet privé pour vous parler de l'écologie. Je continuerai la semaine prochaine. Pardon, la semaine prochaine, je suis pas là. Je vais partir à Paris. Ce sera Bruno qui va nous apporter le message, mais dans 2 semaines, je voudrais continuer. On va relire ce même passage, parce qu'il y a une autre prédication qui m'est venue quand j'ai préparé ce passage. Je prêcherai plus sur les versets 26 à 31, toujours sur cette question de les choses folles que Dieu a choisies pour confondre les fortes. Mais d'ici là, trouvons en nous le désir, trouvons en nous, cultivons en nous cette envie d'admirer ce Christ, se dire voilà, si je préfère les puissants à ce Jésus, si je préfère ceux qui intriguent et qui agissent dans l'ombre pour réussir à gagner au dernier moment plutôt que Jésus, c'est que j'ai pas confiance que sa faiblesse apparente est plus puissante que les puissants du monde. C'est que j'ai pas confiance que sa folie apparente est plus sage que les plus sages de ce monde. Et je dois cultiver ma foi. Cultiver dans ma foi que oui, le Seigneur est vraiment mon tout. Je vous encourage à relire les Béatitudes, je vous encourage à méditer et à contempler ce Christ. Il veut nous donner son trône au moment où nous aurons vaincu comme lui a vaincu à la croix. Et cette croix, contemplez-la. Je discutais avec une personne hier et je lui demandais alors, est-ce que tu as confiance que tu as l'Esprit de Dieu en toi ? Elle me disait, je sais pas, parce que en ce moment, je suis pas très fidèle au Seigneur. Je lui dis, mais t'as pas compris la puissance de la croix, alors? Quand le Christ t'a accordé son Esprit Saint, si vous accordez son Esprit Saint, c'est pour toujours. Au moment où tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois le pardon pour ton passé, pour ton présent et pour ton futur aussi. Ça veut dire que tu n'as pas encore péché, que le Seigneur t'a déjà pardonné. Quand on lit le livre du Deutéronome, quand le peuple de Dieu arrive au bord du pays promis et qu'il signe ce pacte, il renouvelle ce pacte avec Dieu pour devenir son peuple et le recevoir comme son Dieu et obéir à ses commandements, Dieu lui dit, tu sais, tu vas pas y arriver. Au bout d'un moment, tu vas te détourner de moi. Et je vais t'avertir, et je vais t'avertir, et je vais t'avertir. Et tu sais ce qui va se passer? Tu vas pas changer. Et je vais même te chasser du pays. Et là, tu vas te souvenir de moi. Et tu vas te repentir, et tu vas revenir, et tu vas demander pardon. Et je te pardonnerai. Et je te ramènerai. Le peuple a même pas mis un pied encore dans le pays. Que Dieu lui annonce déjà ce qui va se passer. Et dans ce qu'il lui annonce, Dieu lui annonce déjà le pardon qu'il va donner. Vous voyez le truc? Confrontez-vous à ça. Vous savez ce moment où vous péchez encore pour la énième fois et que vous allez pour demander pardon à Dieu et que vous vous dites « mais j'abuse ». Je l'ai vu venir, je ne me suis pas détourné et j'ai péché. Et là, je viens demander pardon à Dieu. J'ai pas de face. Et relisez le Deutéronome. Le peuple n'avait pas encore péché, mais Dieu lui avait annoncé, tu vas pécher et je te pardonnerai. Quand tu auras compris et que tu viendras me demander pardon. Ça, c'est la puissance de la croix. Ça, c'est la folie de la croix. Qui dirait à son enfant, écoute, j'ai rangé le bocal à bonbons ici, tu n'as pas le droit d'en prendre, mais je sais que tu vas en prendre. Et le jour où tu en auras pris, tu vas te cacher de moi, puis au bout d'un moment, peut-être que tu auras trop de culpabilité, tu viendras me voir, et tu me diras, tu sais, papa, j'ai pris du bonbon. Et là, je te pardonnerai. Qui se dit que c'est la meilleure méthode pour éduquer son enfant? On va dire, c'est folie. C'est comme ça que Dieu fait avec vous, avec moi. Mon pardon, il t'est garanti. Alors, je redis ce que dit à Paul. La mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu.